Merci Christophe. Les vents mauvais ont déjà produit des tempêtes et, si l'on peut le dire ainsi, les marges de régression sont encore plus considérables que ce que nous constatons actuellement. Et c'est vrai autant sur le plan des risques écologiques qui conduisent à se retrouver avec une planète devenant inhabitable, que sur l'autre grand risque vital, qui est celui d'une humanité qui régresse dans l'inhumanité. Donc la question des vents mauvais et des tempêtes, elle nous ramène effectivement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toujours ce qui fait sens dans le rapport de la vie et de la mort. Et nous le voyons aussi bien à court terme, à moyen terme, mais même sur le temps très long. À court terme, parce que les situations d'aggravation des risques écologiques nous y amènent quotidiennement. Parce que les situations, aussi bien sur l'Ukraine que à Gaza, dans le conflit israélo-palestinien, et plus généralement partout où il y a une montée extrêmement forte des risques de guerre, je pense en particulier à plusieurs pays africains. Donc la question du rapport vie, mort et sens est absolument fondamentale. Et quand je dis sens, c'est aussi parce que dans les modalités de la violence qui sont en train de monter, le rapport au sens, par exemple sous la forme que prennent un certain nombre de fondamentalismes religieux, qui jouent un rôle très important, aussi bien l'orthodoxie fondamentaliste derrière Poutine, que l'orthodoxie juive ultra-orthodoxe derrière Netanyahou, que l'orthodoxie fondamentaliste islamique derrière les djihad, le Hamas et Sidik Islami, que l'orthodoxie chrétienne évangéliste derrière Trump ou la catholique derrière Bolsonaro, à chaque fois, c'est au nom du sens, c'est au nom d'un sens supérieur que les formes les plus violentes de guerre se conduisent. Ce qui veut dire que dans notre essentiel, non seulement nous avons tous les enjeux économiques, écologiques, sociaux dont nous avons l'habitude, sont tout à fait légitimes. Nous avons évidemment les enjeux politiques, mais nous avons aussi les enjeux culturels, spirituels, on peut utiliser le mot compris en termes complètement laïcs, à prendre en compte. Effectivement, pour affronter cet essentiel-là, le logiciel dominant de l'approche en termes de transition est insuffisant. Je parle de logiciel dominant, celui qu'on trouve par exemple dans le vocabulaire, les mots qu'évoquait Agathe, tels que celui du gouvernement actuel. Je ne parle pas des vrais transitionneurs, je pense par exemple à la radicalité des approches telles celles de la fabrique des transitions. Mais dans le discours dominant, la transition est présentée sur un mode superficiel et linéaire, comme s'il s'agissait de passer d'un point A à un point B avec des modifications au total marginales. Alors qu'en réalité, c'est pour ça Christophe l'évoquait dans son intervention liminaire, qu'avec Julie Chabot, on a écrit ce cas qui résonne davantage en termes de métamorphose, non seulement parce que la métamorphose est une structure fondamentale du vivant que nous retrouvons y compris dans le vivant humain. Nous sommes des êtres de métamorphose, à commencer par la métamorphose qui a présidé à notre naissance, mais aussi parce que la métamorphose permet, si on file par exemple la métaphore la plus classique, chenille-papillon, de comprendre, de nommer tout ce qui se passe du côté des phénomènes de rétractation, de peur, de rétractation, d'intérêt contradictoire et régressif. Si on ne les comprend pas, si on ne les nomme pas, on est vide, désemparé et même désespéré. En termes de transition au sens linéaire des termes, non seulement les choses n'avancent pas assez vite, assez radicalement, mais il y a même quantité de situations dans lesquelles elle régresse. Donc c'est à la fois important de pouvoir comprendre et nommer ce qu'on peut appeler le temple, les chenilles, et nous sommes en plein dans 20 ans les chenilles, mais aussi d'aller repérer l'équivalent de ce que les biologistes appellent les cellules imaginaires, qui sont ensuite porteuses de l'avenir du frétillon, et qui sont présentes à travers toutes les initiatives porteuses de forces de vie que nous avons dans nos sociétés. Et les cellules imaginales, elles sont présentes, y compris au stade de la chenille, sauf que les anticorps de la chenille les empêchent de s'exprimer, parce que du point de vue de la chenille, le papillon, c'est la fin du monde. En tout cas, c'est la fin de son rang. Et donc, ça permet aussi, en même temps que le repérage et le travail d'alliance de ces forces de vie, de ces cellules imaginaires, d'aller travailler sur un troisième élément clé, qui est l'élément du chaos, qui est le moment de la chrysalide. Et à bien des égards, nous sommes en train de passer du temps des chenilles au temps du chaos. Mais la grande affaire, c'est justement que ce chaos soit un chaos créateur qui nous mène vers une métamorphose d'une humanité plus humaine, plus respectueuse du vivant, et non pas une humanité qui régresse dans l'inhumanité. Et donc, quand on prend le problème en ces termes, on voit bien que c'est à la fois la question de l'essentiel sur notre actualité courte, de notre temps moyen. Par exemple, les Nations Unies avaient défini la décennie 2020-2030 comme une décennie critique. Et nous voyons bien aujourd'hui que cette décennie critique est mal partie. Et les deux sommets qui sont prévus par les Nations Unies cette année, celui de Nairobi du côté de la société civile et celui de septembre à New York du côté des États, doivent faire le bilan de cette décennie critique mal partie et de reposer la question comment on recrée des conditions d'impact écologique et social mondial qui soient véritablement en rapport avec la gravité du moment. Mais cet essentiel-là, il se joue aussi sur le temps très long. Parce que quand on parle d'anthropocène, quand on parle de cette mutation absolument radicale qui fait, par exemple, qu'on ne peut pas construire de l'économie sans la réencastrer dans l'écologie, ce que d'ailleurs, normalement, les mots devraient nous inciter à faire, parce que l'oikos nomos, l'organisation de nos petites maisons terriennes, n'a de sens que si l'oikos logos, donc la théorie de ce qu'on peut appeler la grande maison planétaire, n'est pas atteinte, eh bien, ce temps long qui fait que le devenir même de l'humanité est aujourd'hui en pause. C'est-à-dire la question du rapport à la vie, à la mort et au sens, qui est une question que nous nous posons dans l'intime de nos propres vies, y compris quand la question « pourquoi est-on prêt éventuellement à mourir ?» se trouve reposée, qui se trouve posée à toutes les échelles de territoire, elle est aussi posée pour l'humanité en tant que telle. C'est-à-dire la grande question, et je terminerai sur ce point, c'est de savoir comment l'humanité se constitue en sujet positif de sa propre histoire. On peut dire qu'avec Auschwitz et Hiroshima, elle s'est constituée en sujet négatif, c'est-à-dire qu'elle a appris qu'elle était capable de s'autodétruire. La grande affaire aujourd'hui, avec la rencontre de la question écologique sur la terre habitable et de la question humaine sur une humanité capable d'éviter la répression inhumaine, c'est effectivement de dire cette humanité-là qui s'est constituée en sujet négatif, la grande affaire, c'est la constituer en sujet positif. Comment construire un désir d'humanité, le seul désir qui soit capable de donner envie de continuer à faire l'amour et à avoir des enfants, qui est la grande affaire qui se joue également. Eh bien, tout ceci n'est effectivement possible que si nous constituons à toutes les échelles, de l'intime au planétaire, une alliance des forces libres, qui suppose ce repérage des cellules imaginables, et qui suppose qu'au sein de cette alliance, notre capacité à traiter les différences, les divergences, les conflits et les désaccords, qui sont inévitables et qui sont légitimes parce que nous sommes justement sur l'essentiel, eh bien, la capacité à traiter de façon apaisée ces divergences, sans mettre en cause la nécessité absolue de cette alliance des forces de vie face aux logiques mortifères, c'est ça, me semble-t-il, la grande affaire dans laquelle nous sommes engagés. Et quelqu'un comme Camus qui nous disait « Apprenons que dans les fléaux, il y a au total plus à admirer qu'à maîtriser chez l'être humain » est une façon de vous aider. Merci.